l'épreuve de la religion de vérité dans les sources historiques. Comment furent noyés Pharaon et son armée ? Comment fut protégé le corps de Pharaon pendant des milliers d'années ? Et comment parvint-il jusqu'à nos jours ? Où et comment le peuple déviant de Lot fut-il détruit ? Quelle était la vérité qui était restée cachée dans les tablettes des Blas ? Toutes les réponses à ces questions viennent une à une de nos jours, suite aux travaux archéologiques réalisés. Les sources historiques et les découvertes archéologiques montrent encore une fois la véracité des informations données dans le Coran. Les événements du passé desquels nous sommes informés dans le Coran, le fait que ce soit éclairé de nos jours à la lumière des preuves historiques, ceci fait partie sans aucun doute des miracles du Coran. Dans le Coran, nous fûmes informés dans de très nombreux versets des récits des peuples passés. Dans les versets, il est expliqué de manière détaillée les endroits où vivaient ces peuples, les réactions qu'ils affichaient vis-à-vis des envoyés qui leur étaient délégués et l'effacement de la scène historique de ceux qui niaient les envoyés. Grâce aux recherches d'archives faites à notre époque et aux découvertes archéologiques pratiquement, tous ces faits expliqués dans le Coran sont devenus visibles et reconnaissables. Dans ce film, nous allons regarder certains des résultats des travaux archéologiques et nous allons voir les preuves de la religion de vérité qui apparaissent dans les sources historiques. Dans le même temps, nous allons être témoins des manifestations de la promesse d'Allah le Très-Haut dans le Coran. Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Dis, louange à Allah, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Les noms des prophètes cités dans les tablettes d'Ebla datant de 1500 ans avant la Torah. En 1975, du point de vue de l'histoire des religions, une découverte archéologique très importante fut réalisée, les tablettes d'Ebla. Depuis le jour où les tablettes d'Ebla furent trouvées, elles furent de nombreuses fois un sujet de recherche et de débat. Car dans les tablettes d'Ebla étaient cités les noms des trois prophètes mentionnés dans les livres divins. Le prophète Abraham, Abramou, le prophète David, Daoudoum, et le prophète Ismaël, Ishmaïl. De plus, ces tablettes étaient parvenues des années 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que ces écrits appartenaient à une période antérieure de 1500 ans à la Torah. Ceci était une information très importante, car c'est la première fois qu'on tombait sur ces noms dans un document historique aussi ancien. Le fait que le nom du prophète Abraham soit mentionné dans les tablettes montrait encore une fois la véracité des informations des livres divins révélés des milliers d'années après et dans lesquels le nom du prophète Abraham est cité. L'histoire des religions qui restent cachées sous terre. Le royaume d'Ebla était un royaume large qui comprenait une partie du sud-est de la Turquie de la Mésopotamie et s'étendait jusqu'au sud de la ville de Damas en Syrie. Ce royaume a atteint le sommet d'un point de vue culturel et économique, mais après un temps, comme ce fut le cas dans de nombreuses civilisations, il fut effacé de la scène historique. Cette colline basse où se trouvait autrefois la capitale d'Ebla intéresse extrêmement tous les archéologues du monde et est en mesure d'être un endroit qui met en lumière une ancienne civilisation. Le royaume d'Ebla, qui fut découvert pour la première fois dans les fouilles effectuées en 1975 et qui était jusqu'alors considéré comme un succès archéologique classique, gagna sa vraie importance avec la découverte d'archives en écriture cunéiforme composées d'environ 20 000 tablettes et de ses fragments. Ces tablettes en argile, en écriture cunéiforme, remplissaient complètement la chambre des archives du palais et étaient empilées de manière régulière. Avec l'incendie du palais, les tablettes en écriture cunéiforme sont restées intactes parmi les cendres. En même temps, cette archive était quatre fois plus consistante que tous les textes cunéiformes que les autres experts archéologiques connaissaient depuis 3000 ans. Lorsque la langue dans les tablettes fut déchiffrée par Giovanni Petitano, l'expert italien en écriture archéologique de l'Université de Rome, on comprit encore mieux à quel point le propos était si important. Le fait que le royaume d'Ebla était un centre de culture et de commerce important de l'époque était également compris de par les registres qu'il tenait. Les gens d'Ebla étaient maîtres d'une civilisation qui formait des archives d'État, établissait des bibliothèques et enregistrait par écrit les accords commerciaux. Ils avaient même formé leur propre langue, qu'on appelait la langue d'Ebla. La découverte du royaume d'Ebla et de cette archive d'État considérable n'était pas seulement une réussite archéologique. L'importance de ces découvertes était également grande au regard de l'histoire des religions. Car dans les tablettes était mentionné le nom de Michael, l'un des anges cités dans le noble Coran, et le nom des prophètes communiqués dans les trois livres divins. Les historiens ont considéré sous cet angle les tablettes trouvées à Ebla. Le prophète Abraham et la découverte concernant son envoi est devenu, du point de vue de l'histoire des religions, un sujet de recherche important. Dans les tablettes, en plus du nom de ces personnes bénies, d'autres propos et noms de lieux étaient mentionnés. Les noms de Sinaï, Gaza et Jérusalem, qui ne sont pas loin d'Ebla, étaient également mentionnés dans les écritures. Et ceci montrait les liens commerciaux et culturels des gens d'Ebla avec ces endroits. Quant à un détail important aperçu sur les tablettes, c'était les noms des régions Sodome et Gomorre où vivait le peuple de Lot. De plus, en dehors de ces deux régions, la ville d'Iram, dont le propos est abordé dans les versets du Coran, prenait place parmi les noms cités dans les tablettes d'Ebla. L'aspect le plus frappant de ces noms est que, en dehors des livres prêchés par les prophètes, ils ne figuraient dans aucun autre texte historique trouvé jusqu'alors. Ces tablettes avaient une qualité importante en tant que document, montrant que les messages des prophètes qui prêchaient la religion de vérité à cette époque atteignaient également ces régions. Dans un article de la revue Reader's Digest, il est précisé que pendant la période de pouvoir du roi Hébrum, il y eut un changement dans la religion des gens d'Ebla. À cette période, pour glorifier le nom d'Allah le Très-Haut, il fut inscrit dans les registres que les gens utilisaient de jolis adjectifs lorsqu'ils louaient les noms d'Allah. Les découvertes archéologiques obtenues montraient qu'avant, dans les communautés, et ce tout au long de l'histoire, il y avait la croyance en un dieu unique. Et de même, dans les tablettes d'Ebla, il était question d'un seul créateur qui créait le ciel, les étoiles, la lune, le soleil et la terre. le peuple d'Ebla croyait que la création commençait depuis le néant. Dans les tablettes d'Ebla, une inscription concernant la création depuis le néant est ainsi. Le Dieu du ciel et de la terre. Il n'y avait pas la terre, c'est toi qui as créé. Il n'y avait pas de lumière, c'est toi qui as créé. Avec ces inscriptions historiques, on voyait encore une fois que l'assertion de l'évolution des religions, lancée au XIXe siècle, soutenue farouchement par les matérialistes et les athéistes, était le produit d'une imposture. Dans son livre, le célèbre écrivain-chercheur Josh McDowell précise ainsi que les tablettes d'Ebla montrent encore une fois cette réalité. Ainsi, les tablettes d'Ebla anéantissent la croyance selon laquelle la croyance en un dieu unique aurait évolué du polythéisme venu avant cette dernière. Cette hypothèse désignée comme l'évolution de la religion fut propagée et acceptée aux époques de Charles Darwin et Julius Wellhausen. Or, désormais, le fait que le monothéisme est une forme de croyance plus ancienne fut démontré avec les preuves. L'histoire d'Ebla et des tablettes d'Ebla, qui furent connues environ 4500 ans après la période où ils vécurent, attirent en fait l'attention sur une vérité très importante. Tout comme à chaque communauté, Allah le Très-Haut a envoyé des messagers à Ebla. Tout au long de l'histoire, toutes les communautés qui ont préservé leur civilisation ont obligatoirement été informées de l'existence d'Allah, de son unicité, de sa force et puissance infinie, de l'existence du jour du jugement et de ce que notre Seigneur voulait d'eux. Dans le Coran, Allah le Très-Haut nous informe ainsi de cette vérité. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout, de l'idole. » Alors, Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Les feuilles révélées au prophète Abraham sont-elles cachées dans le mont Nemrod? Les connaissances historiques et archéologiques montrent qu'aux périodes où vivait le prophète Abraham, le Moyen-Orient était une région d'idolâtres. Les communautés idolâtres de l'époque adoraient avec une grande ignorance soit les statues qu'ils avaient fabriquées avec leurs propres mains, soit les corps célestes comme le soleil et la lune. Allah a choisi le prophète Abraham, il l'a honoré avec le devoir de prophète dans une telle communauté. Lui, en tant que serviteur vertueux, a représenté la religion de vérité d'Allah et la belle moralité au milieu de ces idolâtres extrêmement enragés, agressifs et oppresseurs. Dans un verset, notre Seigneur nous informe ainsi qu'il a donné les feuilles au prophète Abraham. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable, ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Dans les versets, on voit clairement que bien avant la révélation de la Torah au prophète Moïse, les feuilles furent révélées au prophète Abraham. Dans ces feuilles, il y a la religion Hanif, de droiture du prophète Abraham basée sur le fait de s'en remettre à Allah. Concernant ce sujet, notre prophète propose ceci. Ô envoyé d'Allah, est-ce que quelque chose de ce qui est dans les feuilles du prophète Abraham et du prophète Moïse t'a été révélé ? Demandai-je. Il a donné cette réponse. Ô Abu Zar, oui, il dit que les versets de cette signification furent révélés et il lut. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Certes, celui qui se nettoie bien, se rappelle le nom de son Seigneur et fait la prière, a atteint ce qu'il espérait. Peut-être que vous, vous considérerez la vie de ce monde plus importante, alors que l'au-delà est meilleure et permanente. Certes, ceci se trouvait également dans les feuilles précédentes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Les conseils du prophète Abraham au souverain tyrannique Nemrod. Dans le Coran, nous sommes informés que lorsque le prophète Abraham invitait les gens à croire en Allah, un souverain enragé lui faisait face. Dans les sources historiques, ce négateur est cité sous le nom de Nemrod. Nemrod était un souverain cruel et tyrannique. Une conversation importante fut tenue entre le prophète Abraham et le souverain tyrannique dont on rapporte que c'est Nemrod. Nous sommes informés ainsi de cette conversation dans le Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son seigneur? Abraham ayant dit « J'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort, moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Comme précisé dans le verset, cette personne qui se vante en raison des biens, des propriétés et du pouvoir a lancé une calomnie grande et insensée en débattant avec le prophète Abraham et déclarant qu'il possédait le pouvoir de créer. Allah est certes au-dessus de cela. Cette personne qui se vantait avec ses biens et ses propriétés se divinise avec une grande ignorance, il nie Allah. En raison de son orgueil, il voulait voir la force et la puissance d'Allah sur tout l'univers. Allah est certes le maître des univers. Quant à la réponse donnée par le prophète Abraham à cette personne qui s'enorgueillissait vis-à-vis d'Allah, elle était extrêmement sage et sensée, et ce, de par la bienveillance d'Allah. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Alors, dit Abraham, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. L'incroyant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Les prophètes, qui expliquent aux gens l'existence et la puissance d'Allah, comme dans cet exemple, et en tant que bienfait d'Allah, ont toujours utilisé des explications sages et sensées. Ceux qui ont une foi sincère envers Allah, il leur a rendu leur prêche efficace. Le point de vue déviationniste des négateurs est devenu ainsi invalide. Le prophète Abraham était un musulman hanif. Tout au long de l'histoire, une partie des gens ont débattu la question de savoir à quelle religion appartenait le prophète Abraham. Les juifs l'acceptent comme le prophète de tous les juifs et ils avancent qu'ils suivent le chemin du prophète Abraham. Les chrétiens accepte que le prophète Abraham est le prophète des Juifs. Seulement, en prétendant qu'il se conforme au prophète Jésus qui va venir après lui, il se distingue des Juifs. Or, dans le Coran, Allah nous informe que ceux qui débattent sur la question de la religion du prophète Abraham et de sa descendance n'ont aucune connaissance à ce sujet. La source qui nous apprend l'information la plus juste au sujet du prophète Abraham est le Coran, car le Coran est le seul livre d'Allah non dénaturé. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de la vérité catégorique concernant la religion du prophète Abraham. Je cherche la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était un musulman hanif, entièrement soumis à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, la religion hanif du prophète Abraham lui était communiquée dans les feuilles qui lui furent révélées. On pense qu'aujourd'hui, les originaux de ces feuilles sont dans les ruines de 2500 ans du mont Nemrod, dans la région Adıyaman, au sud-est de la Turquie. Car le prophète Abraham est né dans cette région. Il a prêché la religion de vérité au peuple idolâtre dans cette région. Sa lutte intellectuelle avec le leader du peuple Nemrod s'est encore réalisée dans ses environs. Dans les parties non encore accédées de ces mêmes ruines, on pense qu'il y a la tombe de Nemrod, des écritures en relief, des trésors et de très nombreuses informations expliquant cette période. Il est probable de trouver ici les feuilles du prophète Abraham, considérées par les dirigeants de l'époque comme un élément de délit. Seulement, en raison de divers dangers et de la difficulté d'accès, on n'a pas pu encore atteindre ces parties protégées. Ce n'est qu'avec un travail utilisant une technologie développée qu'il sera possible d'accéder à ces documents historiques extrêmement importants. Le mont Nemrod et le secret de la tombe. Le temple du mont Nemrod, selon les sources historiques, fut édifié à peu près 3000 ans après le prophète Abraham. Cet endroit est aujourd'hui considéré par de très nombreuses institutions internationales, y compris l'UNESCO, comme l'un des trésors culturels les plus importants du monde. Depuis sa première découverte au 19e siècle, beaucoup de fouilles archéologiques furent effectuées dans la région. Les archéologues turcs et étrangers ont fait des recherches sur les particularités de ce temple. Aujourd'hui, rien qu'au cours de la mise à nu d'une partie des structures de construction sur le mont Nemrod, le sommet de ce dernier fut rasé à force humaine. Des blocs de roc de 6 tonnes furent transportés sur plusieurs kilomètres jusqu'au sommet du mont. Les archéologues qui effectuent des travaux sur le mont Nemrod sont unanimement d'accord sur un point important. À l'intérieur du mont, il y a une deuxième partie taillée dans la roche. On pense que cette partie est une chambre funéraire. Pour trouver ces chambres depuis l'époque romaine à nos jours, plusieurs fois des tunnels ont été creusés. Seulement, aucune de ces tentatives n'ont réussi. Selon une théorie, un tunnel taillé dans la roche qui commence avec quelques marches et qui continue vers l'intérieur du mont avec une inclinaison donne sur la chambre funéraire. Du fait qu'elle soit protégée si secrètement, les scientifiques pensent que cette partie est très importante et qu'à l'intérieur se trouvent des documents très précieux. Les fouilles archéologiques effectuées dans cette région doivent avancer en prenant en considération cette réalité, car on escompte que les découvertes à faire sur l'histoire des religions de vérité exposeront des informations très importantes. Dans le document historique, sont expliqués les malheurs qui viennent à Pharaon et à son proche entourage. Jusqu'au XVIIIe siècle, les inscriptions et les écrits dans la langue de l'Égypte antique ne pouvaient pas être lus. La langue de l'Égypte antique était formée de hiéroglyphes et pendant des siècles, cette langue a poursuivi son existence. Seulement, au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, avec la diffusion de la chrétienté et de son effet culturel, l'utilisation des hiéroglyphes a diminué dans les écrits et un certain temps après, elle a pris fin. Après cela, cette langue fut oubliée et il ne resta personne pouvant lire et comprendre ses écritures dans cette langue. Jusqu'à de cela, il y a 2 siècles. Les hiéroglyphes de l'Égypte antique furent compris en 1799 avec la découverte d'une inscription datant de 196 avant Jésus-Christ, désignée sous le nom de Rosetta Stone. Ainsi, une langue oubliée et l'histoire expliquée par cette langue furent élucidées. Grâce à cela, beaucoup de choses furent apprises sur la civilisation de l'Égypte antique, sur leur religion et leur vie sociale. Ces recherches effectuées sur l'Égypte, ce qui était appris sur Pharaon et les écritures de hiéroglyphes déchiffrées allaient devenir les preuves historiques des informations communiquées dans le Coran au sujet de l'Égypte et Pharaon. En Égypte, vers le début du 19e siècle, un papyrus appartenant à la fin de la période du Moyen Empire fut trouvé. Le papyrus trouvé fut emmené au musée de Leiden en Hollande et fut traduit par A.H. Gardiner en 1909. Les conclusions résultantes étaient très importantes, car le papyrus fut écrit par un Égyptien du nom de Ipuwer, et de ses explications on comprenait que cette personne avait été témoin personnellement des catastrophes en Égypte. Les grands changements en Égypte, la faim, la sécheresse, le départ d'Égypte des Hébreux utilisés alors comme esclaves et les décès à l'échelle du pays. Chacun de ces événements était expliqué dans le papyrus. Ici, apparaissait encore une autre vérité très importante. Les informations historiques dans le papyrus concernant les catastrophes frappant le peuple égyptien et celles données dans le Coran en rapport avec ce sujet sont conformes au plus haut degré. Allah a envoyé différents malheurs les uns à la suite des autres à Pharaon et à son peuple qui persistait dans la négation. Une grande période de sécheresse avait d'abord commencé en Égypte. L'eau était extrêmement importante pour l'Égypte. La sécheresse menaçait aussi leur vie. Par conséquent, pour tous les produits obtenus par l'agriculture, il y a eu une grande diminution et une pénurie. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de cette situation. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Cette catastrophe, annoncée par Allah dans le Coran, était exprimée ainsi dans les papyrus de Ikuwer avec les paroles d'une personne témoin des événements. Ainsi, tout ce que j'ai vu hier fut détruit, chaque terrain est tout nu, comme s'il avait été fauché. Les villes furent détruites, la haute Égypte s'est asséchée. Certes, la moisson fut partout dévastée. Voici notre eau, notre bonheur. Que pouvons-nous faire? Tout est saccagé. Les Égyptiens avaient fait reposer leur système d'agriculture sur le fleuve du Nil. Et par ce moyen, le changement des conditions naturelles n'agissait pas sur eux. Même s'il ne pleuvait pas sur les terres d'Égypte, le Nil, en passant par l'intérieur de l'Afrique, apportait de l'eau en abondance, même dans les saisons les plus chaudes. Seulement, à Pharaon et à son proche entourage, en raison de leur énorgueillissement vis-à-vis d'Allah et du fait de ne pas reconnaître le prophète d'Allah, la sécheresse leur est venue en tant que catastrophe à laquelle ils ne s'attendaient pas. Cette période de famine a duré des années. Seulement, eux, avec leur faible intellect, ont accepté cela comme une malédiction apportée par le prophète Moïse et les enfants d'Israël. Nous considérons le prophète Moïse et les croyants avec lui, certes épurés de ses dires. En raison de leurs fausses croyances et de la religion de leurs ancêtres, ils étaient tombés dans une telle pensée déviationniste. Et à cause de cela, ils furent condamnés à subir de grandes gênes. Or, ce qui allait leur arriver n'était pas limité à cela. Allah leur a envoyé une série de catastrophes. L'inondation, les sauterelles, les teignes, les grenouilles et le sang. Dans le verset, nous sommes informés ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les teignes, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et une partie de ces catastrophes était encore clairement communiquée dans les papyrus de Ipuwer. Les catastrophes avaient enveloppé tout le pays, il y avait du sang partout. Le fleuve est devenu du sang. Les zones résidentielles furent mises sans dessus dessous en une minute. Les terres, malgré toute la confusion et le vacarme, pendant 9 jours durant, il n'y avait aucune sortie du palais et personne n'a pu voir le visage de cette personne. Les villes furent dévastées par de forts courants. La Haute Égypte avait été ravagée, il y avait du sang partout. Les épidémies ont commencé à apparaître dans le pays. Certes, aujourd'hui, personne ne peut aller dans le nord à Byblos. Qu'allons-nous faire pour les momies? L'or diminue. Les gens ont désormais peur de l'eau. Même après avoir bu, ils ont eu soif. Malgré ce châtiment, Pharaon et son peuple poursuivirent leur négation. Le prophète Moïse a encore longtemps continué à avertir son peuple. Il les a invités sur le chemin d'Allah. Il leur a montré de très nombreux miracles prouvant le fait qu'il est prophète. Allah le Très-Haut a fait subir nombre de fléaux variés au peuple de Pharaon pour qu'ils retournent sur le droit chemin. Seulement, ils n'ont pas laissé leur fausse religion et ne se sont pas tournés vers notre Créateur, Allah. Devant cette négation endurcie, le prophète Moïse a invoqué notre Seigneur pour qu'il donne le châtiment à ce peuple négateur. « Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. » Et Moïse dit, « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. » Il dit, « Votre prière est exaucée. » Restez tous les deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Et Allah a exaucé cette invocation du prophète Moïse et il a saisi par un châtiment douloureux Pharaon et son proche entourage qui ne se sont pas tournés vers la religion de vérité malgré tous les avertissements qui leur furent délivrés. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Ipuwer parlait ainsi de ces événements dans ses papyrus. Le bas de l'Égypte est dévasté. Tout le palais est resté sans travail, tout ce qui est possédé, le blé et l'orge, les oies et les poissons. Les explications du papyrus d'Ipuwer montre encore une fois la véracité des versets qui nous informent des malheurs envoyés à Pharaon et à son entourage. Ce papyrus, dont le contenu fut éclairci au XXe siècle, est l'une des preuves historiques extrêmement importantes qui confirme encore une fois que le Coran est la parole de notre Seigneur. Le secret de la traversée de la mer Rouge par le prophète Moïse. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Alors, nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas, et ton Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Le miracle vécu par le prophète Moïse et les enfants d'Israël lors de la traversée de la mer Rouge fut l'objet de nombreuses recherches. Le prophète Moïse et ceux qui le suivirent, le chemin qu'ils suivirent après être sortis d'Égypte, comment et par où traversèrent-ils la mer Rouge, ceci fut un sujet de curiosité tout au long de l'histoire, et beaucoup de recherches scientifiques furent menées en ce sens. Grâce à cela, le miracle de la séparation de la mer est expliqué de manière scientifique de nos jours. suite aux recherches scientifiques effectuées dernièrement, en plus du chemin emprunté après être sorti d'Égypte jusqu'à la mer Rouge, l'endroit où Pharaon et le prophète Moïse ainsi que son peuple ont été face à face fut déterminé. Et certes, Allah connaît ce qui est le plus juste. La région spécifiée comme l'endroit où le prophète Moïse a traversé la mer Rouge était d'un point de vue géographique entourée de montagnes. C'est-à-dire, tout comme déterminé dans le verset, le seul endroit où on pouvait aller était la mer Rouge devant eux. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Comme précisé dans le Coran, Allah avait ordonné au prophète Moïse d'utiliser son bâton. Et le prophète Moïse s'est conformé à cet ordre. Et par ce lien, cette cause, la mer s'était séparée de manière à ce que le prophète Moïse et les enfants d'Israël avec lui puissent passer sur la côte en face. Or, Pharaon et son armée qui essayaient de passer sur la côte en face en suivant le même chemin furent anéantis en étant noyés dans la mer qui s'est refermée. Les scientifiques, qui avancèrent à la lumière de ces informations après de nombreuses recherches et examens, se trouvèrent face à des conclusions frappantes quant à savoir comment la mer s'est séparée en deux. L'océanographe Naum Foltinger et le mathématicien russe Alexei Androsov ont prouvé d'un point de vue mathématique qu'il est possible que le prophète Moïse sépare la mer Rouge en deux. Cette information a eu un très grand écho dans les cercles scientifiques et religieux. Elle fut un sujet dans nombre d'informations dans la presse écrite et visuelle. Les résultats des recherches qui ont duré 6 mois étaient complètement conformes avec les informations données dans le Coran concernant cet événement. Les scientifiques en question, selon leur explication dans le bulletin de l'Académie des sciences russes, disent qu'il se trouvait dans la mer Rouge à cette période, un très grand récif proche de la surface. La question qui intéressait les chercheurs était celle-ci. Quelle vitesse de vent était nécessaire pour que le récif reste au-dessus du niveau de l'eau? Combien de temps le récif aurait-il pu rester sec? En combien de temps les eaux avaient recouvert à nouveau le récif? En se basant sur cette situation, les scientifiques en question ont essayé de déterminer l'intensité de la tempête et la vitesse du vent permettant au récif de rester au-dessus du niveau de l'eau. Selon les résultats qui en ressortent, un vent dont la vitesse atteignait les 30 mètres à la seconde était suffisant. Selon les résultats de la recherche, suite à ce vent, les eaux s'étaient complètement abaissées, et ceci avait permis que le récif apparaisse. Ainsi, la mer, en se retirant, avait maintenu le récif au-dessus du niveau de l'eau. Dans cette situation, les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que les Juifs, dont le nombre avoisinait les 600 000, pouvaient atteindre la côte en face en 4 heures, en suivant le récif de 7 km de long. Une demi-heure après le passage des Juifs, le récif est à nouveau resté sous les eaux et les Égyptiens qui les suivaient furent noyés de cette manière. Il ne faut pas oublier qu'il est tout le temps probable que cet événement naturel se produise. Par la volonté d'Allah, lorsque les conditions telles que la vitesse du vent, le lieu et le temps se trouvent réunis comme il faut, ce miracle peut se produire à nouveau. Seulement, le vrai côté miraculeux ici est le moment où cet événement s'est réalisé, c'est-à-dire juste à un moment où le prophète Moïse et les enfants d'Israël avaient besoin d'aide. Le fait que les eaux se retirent juste au moment où le prophète Moïse et les croyants avec lui devaient traverser, et que les eaux remontent à nouveau quand traversent Pharaon et son armée à leurs trousses, est l'un des plus beaux exemples de la miséricorde et du soutien d'Allah le Très-Haut aux croyants. En même temps, c'est un des miracles évidents d'Allah. Pouvoir voir les signes évidents. Tout au long de l'histoire, notre Seigneur Tout-Puissant a délégué des envoyés pour montrer le droit chemin aux gens et à une partie de ses envoyés. Il a révélé des livres de sa part. Dans ces livres, pour que ce soit un conseil et un exemple pour les croyants, Allah transmet des informations et des récits des communautés et des peuples passés. Quant à ces informations qui prennent place dans les livres divins et qui ne se trouvent dans aucun document historique ou période où ces livres furent révélés, eh bien, elles sont exactement confirmées par les résultats des recherches scientifiques, des découvertes archéologiques et différents documents historiques qui sont seulement éclaircis avec la technologie de nos jours. Ce document et ses découvertes confirment encore une fois la véracité des renseignements et des informations transmises dans le Coran et qui se trouvent aussi de manière conforme au Coran dans les livres divins précédents. Ils confirment à nouveau que ces livres furent révélés par notre Seigneur le Très-Haut. Toutes les informations que nous avons regardées tout au long du film nous montrent une réalité évidente. Le Coran est un tel livre qu'à son sujet, il n'y a aucune place pour le doute. Le fait que la véracité des informations communiquées dans le Coran soit mise en avant par les preuves historiques et scientifiques expose encore un autre aspect miraculeux de ce livre divin. Toutes ces preuves qui attestent le Coran vont enthousiasmer ceux qui croient. Ce sont chacune des bonnes nouvelles importantes qui vont augmenter leur ardeur et leur foi. Dans le Coran, notre Seigneur le Très-Haut a promis qu'il va montrer ses preuves aux gens à la fois dans leur propre personne et dans le monde extérieur. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?